quelques versets dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. C'est sur la fin du verset 5 que nous voulons nous arrêter ce matin et réfléchir ensemble. Nous faisons captive toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Nous envisagerons tout d'abord l'état naturel de la pensée humaine. Nous verrons ensuite l'influence exercée par la pensée sur le comportement, sur la vie. Puis nous considérerons cette nécessité que Paul nous annonce d'amener toute pensée à Christ. Et enfin, nous terminerons en essayant de savoir comment nous pouvons tendre vers cet objectif. Abordant ce domaine de la pensée, nous devons d'emblée en distinguer deux aspects différents. Premièrement, la pensée vagabonde, errante. Deuxièmement, tout ce qui est réflexion et raisonnement. Arrêtons-nous quelques instants sur ces composantes de la pensée de l'homme. Si la pensée est le propre de l'homme, toute sa pensée n'est pas, tant s'en faut, réflexion, intelligence constructive ou raisonnement. Une part importante, au contraire, n'est qu'un flot continu d'images, d'idées passagères, souvent inconscientes, c'est-à-dire non contrôlées directement par notre volonté. De même que nous respirons sans avoir besoin de le commander à nos poumons, ou que notre cœur bat sans que nous le lui demandions, de même défilent dans notre cerveau des idées, des pensées que nous n'avons pas besoin de commander pour qu'elles existent. Et c'est même souvent l'inverse. Nous devons mettre en œuvre des efforts particuliers pour arrêter le cours de ces idées. Nous y reviendrons. Il est certain que si nous sommes tous physiquement présents dans cette salle ce matin, certains sont peut-être déjà ailleurs par quelques pensées vagabondes, imaginant, qui sait, le repas de midi ou le match de l'équipe de France plus tard, ou suite à la lecture de ces quelques versets en Corinthiens, imaginant leurs prochaines vacances en Grèce. Ou si vous avez l'esprit plus politique, vous pensez à l'union économique, au Brexit, et ça vous déprime, et vous revenez à la prédication. Il nous est facile de laisser notre esprit s'éloigner, vagabonder. Y a-t-il dans ce domaine des pensées errantes une hostilité contre Dieu, une fuite de Dieu, quelque chose qui soit le signe d'une vie spirituellement malade ? Non, pas spécialement. En fait, nos pensées tendent toujours à fuir, à se disperser, loin de tout point fixe de réflexion. Et il est difficile de concentrer toute son intelligence ou son esprit sur une prédication, mais il est aussi difficile de concentrer son esprit sur le cours que l'on est en train de suivre, mais aussi sur la musique que l'on écoute, sur le film que l'on regarde, sur le livre que l'on lit. Il y a des moments de grande attention, et il y a des moments d'inattention, de grande inattention parfois, dans tous les domaines. Pensées inconscientes, pensées vagabondes, à côté de ces pensées, nous trouvons bien sûr toutes les pensées qui concernent le raisonnement humain, l'intelligence, la réflexion consciente. Alors quelles sont les caractéristiques de ce monde de la pensée raisonnante de l'homme naturel ? Tout d'abord, ce monde de la pensée naturelle s'affirme bien souvent, comme sans Dieu, ainsi que Paul le rappelle aux Éphésiens, en Éphésiens 2, verset 12, « Vous étiez sans espérance et sans Dieu. » La pensée s'attache à ce que l'homme aime, et l'homme naturel, souvent, toujours, n'aime pas beaucoup Dieu. Sa pensée s'attache donc peu à Dieu. mais beaucoup aux choses du monde, aux soucis du monde, aux plaisirs du monde. L'homme pense naturellement à ce qu'il va faire, à ce qu'il va manger, à son travail, à ses plaisirs, à sa santé, etc. L'homme cherche, dit Blaise Pascal, à se divertir. Les hommes, écrit-il, n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. On aimerait parler comme Blaise Pascal. Il arrive pourtant que l'homme pense à Dieu, qu'il pense aux choses de Dieu, qu'il semble se rapprocher de son Créateur. Ceci se produit, par exemple, lorsqu'il est dans une situation difficile, de besoin, de crainte, lorsqu'il cherche à écarter un échec, la maladie, la mort, en se conciliant Dieu, en tournant alors peut-être ses pensées vers lui. Mais pour combien de temps ? J'ai noté cette remarque de John Wesley dans son journal, alors qu'il se dirige vers l'Amérique, 2 décembre 1735. Il écrit « J'ai eu une grande satisfaction à converser avec une passagère qui se trouvait très malade et montrait beaucoup de sérieux. Mais en quelques jours, elle a récupéré de sa maladie et de ses pensées sérieuses dans le même temps. Et il m'est arrivé plusieurs fois de faire ce type d'expérience avec un patient qui téléphone en disant « Je vais très mal, j'ai envie de mourir, de me tuer. » Je le vois rapidement et il a alors quelques préoccupations sérieuses, spirituelles. Et il est possible de parler de Dieu, de présenter le salut possible en Christ. Et cela est écouté avec quelque intérêt. La personne semble touchée, mais bien souvent le lendemain ou les jours suivants, parce qu'il va mieux moralement. Le divertissement le reprend et il oublie ce qu'il a un temps, ce vers quoi il s'est dirigé. Sans Dieu, sans espérance, voilà bien l'état de la pensée naturelle de l'homme. Mais parfois il y a plus. Il y a parfois rejet, hostilité envers Dieu. La pensée humaine affirme alors « Non, pas de Dieu, nous n'en voulons pas !» La pensée qui doute de l'existence de Dieu, qui ne veut pas reconnaître qui il est et qui il est, qui refuse de reconnaître ses attributs, qui refuse de croire en un Dieu bon, en un Dieu d'amour. « Cela se saurait, » me disait quelqu'un. « Cela se saurait si l'Évangile c'était vrai, si Dieu c'était vraiment ce Dieu d'amour. » Cela se saurait. Le refus de savoir, le refus d'accepter le témoignage de ceux que Dieu a rencontrés, le refus de la foi. La pensée humaine qui, dans le même temps, s'idolâtrise elle-même et refuse obstinément d'admettre Dieu. Ni Dieu ni maître, c'était le mot d'ordre des anarchistes il y a longtemps. Quelque part, c'est le mot d'ordre de la pensée naturel de l'homme, ni Dieu, ni maître. Et dans le même temps, pourtant l'homme se livre, pieds et poings liés, à d'autres maîtres. L'orgueil, l'égoïsme, l'indifférence, l'amour de l'argent, la recherche du plaisir, des théories plus ou moins fumeuses. Dieu nié par la pensée de l'homme. Dieu méconnu, transformé, caricaturé par cette même pensée. Dans un entretien, un journaliste pose à une personnalité croyante cette question banale, classique. L'existence de l'injustice si criante sur la terre ne vous fait-elle jamais douter de Dieu ? Question bateau, dirons-nous. Question qui suppose qu'un Dieu que l'on a le droit de juger. Mais l'existence de l'injustice sur la terre ne me fait pas douter de Dieu, elle me fait douter de l'homme. Elle me convainc de l'échec de l'homme et de sa nature corrompue. Je dois reconnaître ma nature corrompue. En quoi Dieu serait-il responsable de cela, de la corruption du monde, de ma corruption ? Idée humaine sur Dieu, sur un Dieu fait à l'image de l'homme. Et certes, face à ce Dieu-là, création de l'homme, nous aurions peut-être envie de dire, comme Jacques Prévert, notre Père, qui êtes aux cieux, restez-y. Pourquoi la pensée consciente, résonnante de l'homme est-elle si contraire à Dieu ? Est-elle si opposée aux pensées de Dieu ? Vos pensées, dit Jésus à ses disciples, ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit cela à ses disciples et aux hommes de son temps. La pensée de l'homme non régénéré rejette Dieu, parce que l'homme, de fait, est athée, en même temps qu'il est idolâtre du monde, des systèmes du monde et de lui-même. Et cette position de l'homme a des répercussions inéluctables sur sa vie, sur son comportement, sur ses pensées. Voilà qui nous mène à quelques remarques sur l'importance que présentent dans la vie de l'homme ses pensées, tant inconscientes et de rêverie que conscientes et raisonnées. Les idées vagabondes, les rêveries qui nous assaillent influencent notre comportement, nos décisions, nos choix. Combien de fois ce que nous croyons être décisions raisonnables, choix logiques, comportements pesés, jugements objectifs, combien de fois cela n'est-il pas provoqué par des motivations que nous contrôlons peu, voire qui nous échappent complètement ? Choix d'une profession, d'un conjoint, de position générale, politiques et autres. Problèmes relationnels avec les autres. Combien de fois tout cela est parfois directement sous le commandement secret de pensées irrationnelles, conscientes ou non. Ne croyons pas que cela soit sans répercussion sur nos vies. L'errance de la pensée peut avoir de graves conséquences dans nos vies. Et ce domaine, nous le verrons, ne doit pas rester hors de l'autorité du Christ. Et quant à ce qui concerne nos systèmes de raisonnement logique, nos réflexions conscientes, nous en savons l'importance. Ces pensées qu'elles concernent le quotidien, la politique, l'économie, la philosophie, la religion même, ne peuvent pas ne pas avoir des liens très forts avec ce que nous vivons, avec ce que nous sommes. Je me souviens que M. Berg, dont quelques-uns peut-être parmi vous se souviennent, a dit un jour ici même, un homme est ce qu'il pense. Un homme est ce qu'il pense. Pourquoi cela ? Parce que la personne humaine est une. L'homme n'est pas constitué de sous-unités indépendantes que seraient le physique, le moral, l'intellectuel, le spirituel. L'homme est un. Tout est mêlé. Le physique dépend du moral, l'intellectuel agit sur le spirituel, etc. Tous les aspects de l'être humain ont et auront à rendre compte devant Dieu. Et ceci est valable et donc pleinement pour ce qui est de l'intelligence et des pensées. Et bien sûr, il y a une très forte intrication entre nos pensées raisonnées, nos idées intellectuelles et le vagabondage de nos pensées et de nos idées. Les unes agissent sur les autres et réciproquement. Là encore, il y a unité. Le conscient, l'inconscient, l'imaginaire, la rêverie, la pensée purement intellectuelle, tout cela est lié intimement et tout cela a des conséquences dans nos vies. Alors, amenez toute pensée à Christ. Ayant discuté trop brièvement, bien sûr, et trop superficiellement ce qu'est la pensée humaine naturelle et ce vers quoi elle tend naturellement, nous en arrivons à cette nécessité que Paul exprime d'amener cette même pensée à se placer sous l'autorité de Jésus-Christ. Pourquoi, direz-vous peut-être, devons-nous amener toute pensée à Christ ? La réponse, chers amis, est évidente. Dieu veut tout. Dieu veut tout. Nous l'avons chanté. Tu veux tout. Je te donne tout. Plus facile de le chanter que de le vivre. Mais Dieu veut tout. Il ne se satisfait pas de n'avoir droit qu'à quelques aspects de notre personne. La pensée ne peut donc être un domaine réservé, une propriété privée dans laquelle Dieu n'aurait pas le droit d'entrer. « Je frappe à la porte, » dit Jésus. « Celui qui m'entre, celui qui m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui. Je serai chez lui, chez moi. » Cela concerne la pensée, l'intelligence, le raisonnement comme toute autre chose. Dieu veut la première place. L'homme qui plaît à Dieu, c'est celui qui pense juste, autant que celui qui agit juste. Et ces deux choses sont indissociables. Impossible de se dire, puisque j'agis fidèlement, ce que je pense importe peu. De même qu'il est impossible de se dire, puisque je raisonne sainement, ma théologie est parfaite, peu importe mes actions. Jésus a clairement signifié cela lorsqu'il prêcha le sermon sur la montagne et en bien d'autres occasions. Vous vous croyez juste parce que vous n'avez pas tué, pas volé, pas été idolâtre, pas commis d'adultère. Mais qu'en est-il dans vos pensées? Est-ce que là, vous n'avez pas tué, volé, haï vos frères, trompé vos femmes, etc. Les pharisiens faisaient largement cette distinction entre leurs œuvres et leurs pensées. Une extrême rigueur pour analyser leur conduite extérieure et celle des autres, et une extrême tolérance concernant leurs idées, leurs motivations, leurs désirs secrets. Mais nous le savons, Jésus n'a pas eu de mots trop forts pour condamner cette attitude. Avons-nous le désir de mettre en harmonie notre foi, notre comportement, nos pensées, tant conscientes que vagabondes? Si nous avons ce désir d'une cohérence entre nos idées et nos actes, entre notre foi et notre pensée intellectuelle, si nous acceptons d'amener toute pensée à Christ, il nous faut maintenant, bien sûr, nous poser la question, comment y parvenir? Que faut-il faire pour cela? Comment s'y prendre? Et est-ce possible? Nous faisons captive, dit Paul, toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Il nous faut vouloir obéir, c'est-à-dire accepter l'autorité de Jésus, nous placer sous cette autorité, placer nos pensées dans ce cadre, rendre captives nos pensées, c'est les soumettre, les garder sous notre contrôle, ou plus exactement, sous le contrôle de l'Esprit, pour obéir à Christ. C'est ce que Paul exprime dans ces quelques versets. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons ainsi toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Alors tout d'abord, concernant ces pensées errantes qui semblent, comme nous l'avons dit, pour l'essentiel être incontrôlées et difficilement contrôlables, serait-il possible de diriger ces pensées et a fortiori de les guider vers Christ? Il nous faut affirmer que cela est sans doute difficile, mais nous pouvons demander à Dieu qu'il nous aide à contrôler cela aussi. Ces idées, nous l'avons dit tout à l'heure, par leur essence même sont certes fugaces, vives, soudaines, souvent imprévisibles, et tentent à fuir le contrôle, la contrainte. Elles sont sous la dépendance de plein de facteurs, de circonstances. Et il n'est pas facile de toujours parvenir à éliminer tout cela. Mais cela est vrai pour tout domaine où nos pensées vont tendre à se disperser. Mais alors devons-nous nous culpabiliser lorsque nous constatons combien aisément nous nous éloignons de pensées utiles, bénéfiques, et partons comme à l'aventure dans des territoires plus ou moins dangereux? Non pas forcément nous culpabiliser, mais nous devons reconnaître que si nous vivons encore dans un corps faible, exposé à plein d'influences plus ou moins bonnes, nous devons critiquer ce qui, même dans ses pensées, n'est pas bon, est malsain, n'est pas à la gloire de Dieu. Alors certes, il y a quelque chose de douloureux dans notre situation de faiblesse. Pensons aux disciples qui n'ont pu veiller avec Jésus à Gethsémané, incapables de discipliner leur corps et leurs pensées pour accompagner leur Seigneur dans cette nuit de douce souffrance. Tant que nous aurons nous-mêmes une telle faiblesse, nous vivrons aussi des difficultés à amener nos pensées à l'obéissance de Christ. C'est vrai pour ce monde de pensées fugaces comme pour les autres. Mais un jour, nous le savons, ces limitations disparaîtront et nous serons libres, là aussi. Alors, est-ce à dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'efforts à faire, que nous pouvons laisser aller les choses sans nous soucier? Je ne le crois pas. Il nous faut, acceptons notre faiblesse, lutter lorsque notre attention, notre concentration, la rigueur de nos réflexions sont nécessaires. Nous devons lutter pour juger ces pensées, y compris ces pensées volatiles, et rejeter rapidement toutes celles qui sont mauvaises et que nous reconnaîtrons comme telles, sans trop de difficultés, qui sont malsaines, pensées de colère, de jalousie, de convoitise, d'impudicité. Nous devons nous efforcer d'appliquer ce conseil connu de Martin Luther. Nous pouvons empêcher les oiseaux de tourner autour de notre tête, mais nous pouvons les empêcher de faire leur nid dans notre chevelure. Donc, pas tellement de chevelure pour les hommes, mais vous comprenez l'image. Comment placer nos pensées résonantes sous l'autorité de Jésus-Christ ? Il nous faut déjà nourrir notre pensée avec la pensée de Dieu manifestée en Jésus. C'est seulement si nous connaissons Jésus que nos pensées pourront lui ressembler. Nous devons donc nous nourrir de sa pensée, c'est-à-dire nous nourrir de sa parole. Lire, réfléchir, étudier la parole de Dieu, qu'elle soit parole vivante pour nous. C'est alors que nous pourrons laisser cette parole, cet enseignement, tout à la fois guider nos pensées et juger de leur valeur, laissant l'Esprit nous conduire. L'Esprit nous montrera ce qui est bon, ce qui est valable, ce qui est mauvais, ce qui est stupide, ce qui est inutile. Le juge de nos pensées, de nos idées, des images qui traversent notre pensée, de nos systèmes de réflexion, tant politiques que philosophiques ou simplement pratiques. Le juge de cela, ce doit être la pensée même de Christ. Et cette pensée, nous ne pouvons la connaître et donc nous y soumettre que lorsque l'Esprit nous aide à comprendre ce que nous recevons, lorsque nous lisons la parole, lorsque nous l'écoutons méditer, lorsque nous nous exposons à ce que nos frères et sœurs peuvent nous dire, nourris eux-mêmes de cette parole. Il est vain de dire que nous cherchons à connaître la volonté de Dieu et que nous cherchons à nous y soumettre si nous ne mettons pas notre volonté à l'étude de la parole, de la pensée de Dieu. Nous prions que ta volonté soit faite. Et je crois que souvent, dans notre idée, cela signifie « Seigneur, permets que je réussisse cet examen, que je ne sois pas malade, que je guérisse, que tout se passe bien, etc. » Mais c'est plus que cela. C'est « Aide-moi à faire ta volonté. Ta volonté que tu me révèles, ton enseignement que tu veux que j'apprenne, que je suive, auquel tu veux que j'obéisse, que je fasse ta volonté, cette volonté que je trouve exprimée dans ta parole. » Connaître la pensée de Dieu, la pensée de Christ, lui obéir, nous placer sous son influence et rejeter ce que le monde peut nous proposer et qui est hostile à Dieu. Et nous savons combien de choses le monde nous présente qui sont hostiles à Dieu. Depuis des images de la publicité jusqu'à des systèmes de pensée, des influences, il nous faut nous exposer à la parole pour lutter contre ces choses et résister. Alors pour conclure, faire captive toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Un programme ambitieux, un programme qui concerne en fait toute notre existence et qui remet en cause nos priorités dans ce domaine si important de la pensée humaine, de l'intelligence. Venir à Christ, cela n'a de sens que si cela s'accompagne de la volonté de lui obéir. Amener toute pensée à Christ, c'est en fait, comme le dit notre texte, l'amener à lui obéir. Il n'est pas possible de venir à lui dans d'autres dispositions. Alors est-ce que cela signifierait que nous allons perdre chacun toute notre personnalité, devenir tous semblables ? Au contraire, Dieu veut que nous utilisions les caractéristiques de notre personnalité, que nous tirions le plus grand profit de notre intelligence, de notre culture, de notre parcours, de nos expériences. Il apprécie que nos pensées soient originales et fructueuses. Et ceci sera rendu possible justement par cette conformité à la pensée même de Christ. Nous ne serons pas dans un carcan qui nous emprisonnerait. Nous trouverons au contraire ce dont nous avons besoin pour atteindre notre plénitude. Si nous devons encore, pour un temps, souffrir des limitations de notre personne, et par exemple vivre avec ce vagabondage difficilement contrôlable ou contrôlé de nos pensées, exposer que nous sommes à tant de pensées qui sont hostiles à Dieu et dont certaines sont subtiles, nous savons qu'un jour, nous serons pleinement et totalement en communion avec notre Dieu et que tout notre être et tous ensemble, nous nous réjouirons dans la louange, dans l'adoration et un bonheur éternel. Préparons-nous-y dès maintenant et goûtons-en déjà quelques fruits en amenant toute pensée à l'obéissance de Christ. Amen. Je vous propose de prier. Notre Dieu, notre Père, tu sais notre faiblesse dans tous les domaines de notre vie et dans celui-là, entre autres, de la pensée, de nos pensées. Combien facilement nous nous éloignons de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce que tu aimes, de ce que tu veux pour nous. Que ce soit dans des pensées, des idées, des images qui nous traversent l'esprit. Que ce soit dans des réflexions raisonnées, où nous sommes aussi exposés à tant de tentations, à tant de choses fausses. Père, tu sais notre faiblesse, mais tu sais aussi que c'est en toi que nous mettons toute notre confiance, croyant que ton esprit nous nourrit par ta parole, pour que nous avancions, progressions, et allions vers cette ressemblance, cette assimilation au Christ que tu désires pour chacun de nous. Père, notre prière, c'est en effet que tu aides chacun de nous à amener toute pensée à l'obéissance à Christ. Amen.